au chapitre 4, nous allons lire le verset 1er. Genèse chapitre 4, verset 1er. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. J'aimerais partager avec vous quelques pensées sur l'extrême gravité de ce mal moral qu'est le péché. Et même si nous le faisons à partir d'un texte très ancien, qui semble ne plus trop nous concerner, nous allons voir au fur et à mesure de notre réflexion qu'au-dedans de nous-mêmes, d'une manière psychologique, spirituelle, eh bien, nous ne sommes pas si étrangers que cela à ce drame. Les mêmes convoitises, les mêmes humeurs, ces intempéries internes, eh bien, font de nous des hommes, des femmes potentiellement capables de commettre le mal comme Caïn. L'apôtre Paul a parlé du péché d'une manière très précise. Je vous renvoie, si vous n'êtes pas un lecteur de la parole de Dieu, à l'épître aux Romains, notamment au chapitre 5 et au chapitre 6, où Paul va nous décrire l'entrée du péché dans le monde, non pas comme une simple apparition fugitive, un phénomène passager, cette histoire de fruits dont tout le monde se gosse un petit peu, quelque part dans un jardin d'Éden qu'on ne saurait pas trop situer sur la carte. Non, Paul en parle très sérieusement. Et il en parle comme l'inauguration solennelle d'un règne. Dans Romains chapitre 5, versets 12 à 21, il dit, mais, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la mort, et ainsi, eh bien, il y a eu un règne qui s'est étendu sur tous les hommes. Un véritable règne. C'est l'envahissement, la domination de la puissance du mal par le fait d'un seul homme. Ce péché dérive d'un seul acte de désobéissance, la désobéissance de notre premier parent, Adam. Paul affirme que le péché et la mort, si redoutables pour nous les humains, le péché et la mort sont aussi universels l'un que l'autre. D'ailleurs, l'un étant la raison d'être de l'autre. Si la mort est attachée au genre humain, elle l'est à cause du péché. Comme l'effet est attaché à sa cause, la mort est attachée et relève du péché. Le mal est quelque chose d'inexplicable. Si l'on parvenait à expliquer le mal, peut-être que l'on parviendrait également à le justifier. Et si on le justifiait, il ne serait plus le mal. Il y a donc un mystère que la Bible aborde très, très sobrement. Elle nous montre combien le mal est contagieux. D'abord, il éclate dans des régions célestes, avant la création de notre terre. C'est dire s'il y a une antiquité. Et il n'a pas tardé, très rapidement, à s'introduire au sein de notre humanité. Ce qui est véritablement consternant, c'est que dans un environnement idéal, le jardin d'Éden, où tout était non seulement bon, mais très bon, eh bien, la tentation a pu s'introduire. Et avec elle, favoriser la chute de l'homme dans la désobéissance. Je disais tout à l'heure que bien que éloigné de ce texte de la Genèse, chapitre 4, on ne sait pas trop comment situer et dater cette présence humaine, eh bien, on se sent solidaire La Bible parle de trois formes de péché, très, très rapidement. La convoitise de la chair, qui est une forme basse et grossière de séduction, les désirs immodérés, désordonnés de la nature humaine. La convoitise des yeux, qui est plus intermédiaire. Et enfin, l'orgueil de la vie, la forme peut-être la plus subtile du péché. Donc, on se rend compte que ce mal qui a éclaté dans des zones, dans les régions célestes, dans des zones supérieures, est descendu sur la terre. Et il a contaminé l'être humain. Et à partir d'Adam, et par le seul acte de désobéissance d'Adam, eh bien, le mal s'est rendu universel et héréditaire. Le second de ces termes, l'hérédité, explique le premier. Si le mal a pu s'universaliser, c'est parce qu'il est transmissible d'une génération à l'autre. Il y a une mystérieuse loi de solidarité qui fait que malgré toutes les différences que nous pouvons monter en épingle, différences de race, différences de classe, différences de je ne sais trop quoi, eh bien les hommes sont tous rattachés à Adam. Toute l'espèce humaine est rattachée à Adam. Car la faute d'Adam n'a pas seulement été une faute individuelle, mais elle a été aussi une faute générique. C'est-à-dire en tant que représentant de cette espèce à laquelle nous appartenons, eh bien Adam a fauté. L'Épître aux Romains chapitre 5 verset 19 dit que à cause d'un seul acte de désobéissance, beaucoup ont été rendus pécheurs. C'est-à-dire ils ont été déclarés, ils ont été constitués pécheurs. Cette solidarité, qui est une réalité, ne porte pas atteinte à la liberté personnelle. Il ne faut pas croire que nous sommes porteurs d'un péché originel. Il n'y a pas de culpabilité héréditaire. Ce qui est héréditaire, c'est la corruption de la nature. Nous avons donc une nature qui nous porte au mal. Tous les enfants laissent voir déjà ce qu'ils seront plus tard. Mais notre culpabilité relève de notre fait, de notre responsabilité. Je ne me suis jamais senti coupable du péché d'Adam, mais j'ai senti que par cette mystérieuse loi de solidarité, j'étais un descendant d'Adam. Il y avait en moi une tendance au mal, mais j'ai été coupable de mes péchés, de mes fautes. Le péché n'a donc jamais été une étape du progrès. Et il a marqué au contraire, d'après la parole de Dieu, une chute effroyable. Ce n'est pas un point de départ, car la Bible nous dit que l'homme a été créé innocent, portant l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu, ce qui correspond bien sûr à la nature spirituelle, à la conscience du bien et du mal. D'ailleurs, quand on lit ce chapitre de la Genèse, chapitre 4, on se rend compte que dès les origines, dès le tout commencement de l'histoire, l'homme avait une conscience éclairée et une conscience qui était responsable. Donc cette forme redoutable du mal, car aujourd'hui les gens sont évidemment sensibles au mal physique, au mal quand il apparaît dans la nature, et c'est vrai qu'il y a, le mal cosmique dans la nature, avec les événements ou les éléments qui se déchaînent, ou bien il y a le mal physique dans notre corps, la mort qui blesse. Même lorsqu'elle est issue du terrorisme, elle déchire. Mais les gens sont souvent indifférents à la forme la plus dangereuse du mal, le mal moral, c'est-à-dire le péché. Or, le péché, c'est la forme la plus redoutable. C'est plus redoutable que le mal cosmique, les destructions. Moi, je n'aime pas ceux qui détruisent la terre. Mais vous savez, quand une baleine s'est pris la queue dans la banquise, ça m'affecte beaucoup moins que quand je vois un individu lié par le péché, être esclave de ses passions et de ses convoitises. Mais le monde est indifférent aux soucis du Rédempteur. Le Seigneur se soucie des hommes, nous allons le voir avec Caïn. Il prend en compte les faiblesses et il essaie de les relever. Si tu agis bien, dit le Seigneur, tu relèveras ta tête, tout n'est pas encore perdu. Mais l'homme, eh bien, ne se préoccupe pas du mal moral, le péché n'est pas quelque chose qui le dérange. Pourtant, c'est à cause de nos péchés que Christ est venu dans le monde. Et bien plus, c'est à cause de nos péchés que Christ est mort sur la croix. Donc, dans les Écritures saintes, le péché revêt un caractère d'extrême gravité. Ce n'est pas un petit problème. C'est le plus grand de tous les problèmes. Et si nos émotions peuvent être sollicitées lorsqu'il y a des ravages dans la nature, ou si nos émotions sont bouleversées lorsque le mal physique détruit un corps, le corps d'un être bien-aimé, nous devrions être encore plus bouleversés à l'idée que le salaire du péché, qui est la mort, puisse demain être le lot de quelqu'un que nous connaissons. La Bible nous dit, Romains chapitre 7, verset 13, et on reviendra tout à l'heure sur ce texte, Paul dit que le péché s'est montré excessivement pécheur. On reviendra sur ces expressions qui sont un petit peu difficiles à comprendre. La version originale nous dit qu'il est devenu plus gravement péché que jamais. Plus gravement péché que jamais. C'est-à-dire que le péché s'est manifesté dans toute sa virulence de péché. D'ailleurs, il y a aussi un autre texte que les chrétiens connaissent bien, qui les tranquillise, parce qu'ils disent « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Le mot « abondé » traduit le mot grec qui signifie pulluler. On parle de la prolifération. Du pulluler, c'est se multiplier beaucoup et rapidement. On parle de cela lorsqu'on évoque les germes, les microbes. Ça pullule, ça se multiplie rapidement et à grande échelle. Et bien, c'est ainsi que le péché s'est développé dans l'humanité. Vous regardez. Le livre de la Genèse, c'est d'abord un homme qui pêche, puis ensuite c'est le couple qui est affecté, les relations entre l'homme et la femme ne sont plus ce qu'elles étaient. Puis on voit des frères qui s'entretuent et le péché saisit l'occasion d'un sacrifice pour donner la mort à un être cher. Puis on le voit dans l'Exode, il s'étend dans le livre de la Genèse à l'humanité, c'est le déluge, c'est Babel. Dans l'Exode, on voit que c'est toute une nation, Israël. Et quand on a plus en avance dans les Écritures, on se rend compte que la question du péché concerne l'humanité. La Bible dit tous ont péché. Tous sont donc privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un seul, pas même un, qui puisse dire qu'il n'est pas inclus dans cette loi de solidarité. Le péché se définit toujours par rapport à Dieu. Souvent, les gens envisagent le péché par rapport aux hommes. Oui, cela peut en effet être un aspect du péché, mais dans l'Écriture, il se définit par rapport à Dieu. Parce que ce sont nos péchés, dit le prophète Ésaïe, qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Et quand on prend tous les textes, ils sont nombreux, ça ne va pas être l'objet de notre étude cet après-midi, tous les textes de la Bible où il est question du péché, eh bien vous verrez, vous apprenez que toute la terminologie du péché, tous les mots que Paul utilise pour parler du péché confirment cet aspect fondamental de rupture avec Dieu. Depuis le commencement, Dieu est celui qui entre en relation avec les hommes. Et le péché, c'est la rupture de cette relation avec l'homme. Dans l'Ancien Testament, vous avez des descriptions très précises concernant un sanctuaire, le tabernacle. Alors on est étonné de voir qu'en plein désert, Dieu donne à Moïse des ordres concernant des limites. Un voile blanc, immaculé, puis le lieu saint, puis le lieu très saint dans lequel n'entrent que les sacrificateurs et puis que le souverain sacrificateur une fois là. Bref, il y a constamment des limites. Dieu est en train d'enseigner en effet que le péché nous sépare. C'est lui qui a fait d'Adam un exilé. Caïn est allé vivre, la Bible dit qu'il s'est éloigné, il est allé vivre dans la terre de Nod, ce qui signifie la fuite, l'exil. Combien de gens pourraient psychologiquement s'appliquer cela? Ils fuient la responsabilité. Je connais des gens qui ont des enfants un peu partout dans le monde, et ça ne leur vient pas à l'esprit d'assumer leur responsabilité. Ils fuient, et d'autres sont en exil, sont coupés de leur famille, coupés de... Finalement, on a beau se dire c'est très loin de nous, c'est aussi très proche de nous. Ça nous concerne. Et ça nous parle, voyez-vous, de cette vérité. Partout où le péché se manifeste, il supprime la communion avec Dieu. Le péché, c'est donc tout ce qui s'écarte de la norme, de l'ordre divin. C'est tout ce qui met en danger notre vie. Il y a un cantique qu'on chantait autrefois, et ce cantique nous dit, c'est le péché qui met l'âme humaine en danger. C'est le péché qui détruit le bonheur du foyer. C'est le péché qui est à l'origine de nos souffrances. Et nous considérons ces choses comme étant secondaires, comme étant accessoires. Pourtant, nous ne devrions pas. Toutes les prophéties, tous les textes de l'Écriture présentent le péché comme un acte responsable. Souvent, nous nous dédouanons en disant « Oui, mais ce n'est pas de ma faute, c'est ceci ou c'est cela, ou c'est encore cette personne qui est intervenue. » Mais pour Dieu, le péché est un refus d'obéir à son appel ou à son ordre. Et c'est pour cela qu'il y a de nombreux textes dans la Bible qui nous avertissent contre l'endurcissement. L'endurcissement, le fait de vouloir résister à Dieu. Ce matin, il y a eu un don spirituel dans ce culte. Et l'Esprit de Dieu parlait de ne pas s'entêter, de ne pas s'endurcir, de ne pas se fermer. Contrairement à ce que l'on peut penser, le péché n'est pas le fait de l'absence d'une révélation pour que quelqu'un puisse dire « mais je ne savais pas ». Ou est-ce que c'était écrit que c'était interdit ? Non, au contraire, le péché est en rapport avec l'abondance de la révélation. Ce qui souligne la responsabilité de l'individu. Adam savait, Caïn a été averti par le Seigneur. Israël était au courant. Et vous et moi, nous le savons, Dieu n'a-t-il pas donné une révélation de sa personne dans la nature, dans l'Écriture ? N'avons-nous pas la conscience, cet avertisseur interne qui nous montre ce qui est bien, ce qui est mal ? Et nous nous sommes habitués à la présence du péché. Cette contamination, cette contagion qui est venue des sphères supérieures et qui a été à l'origine le fait d'un esprit, car le péché n'a pas commencé chez l'homme, mais il a commencé chez un ange et a corrompu sa nature. Ce péché est venu souiller. Aujourd'hui, c'est toute notre atmosphère qui est imbibée de péché. Nos institutions sont marquées par le péché. Les formes de nos gouvernements, notre style personnel de vie, la construction de ce qu'on peut appeler un plan de carrière est aujourd'hui même souvent assujetti à la réalité du péché. Cet après-midi, je voudrais vous avertir comme Dieu a averti Caïn. Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Cela nous parle dès le commencement de cette réalité, c'est que Dieu ne laisse pas l'homme seul livré à cette lutte, à cette réalité que je viens de définir en quelques mots, un mal héréditaire, universel, extrêmement grave, qui a pullulé, qui nous a envahis, nous sommes débordés. Dieu n'abandonne pas le pécheur, il lui adresse la parole pour le rendre conscient de sa faute, pour l'empêcher de plonger plus loin et plus en avant dans le mal. C'est vrai que le sacrifice de Caïn n'a pas été agréé. Mais Dieu semble dire dans ce texte, rien n'est encore perdu. D'ailleurs, si tu agis bien, le texte original dit si tu es bien disposé, si tu agis bien, eh bien, tu relèveras ta tête. Le relèvement ne dépend que de Caïn. C'est bien ce que veulent dire ces paroles. Si tu agis bien, si tu es bien disposé, certainement tu relèveras ton visage. Toute la Bible confirme cet aspect miséricordieux du Seigneur. L'Écriture nous dit que Dieu ne veut pas la mort de celui qui meurt, mais ce qu'il désire, c'est que le pécheur se repente et qu'il vive. Non, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Il y a souvent des gens qui nous disent, mais vous savez, les prédicateurs de l'Évangile agitent un épouvantail pour nous effrayer. Non, mes amis, nous ne prêchons pas l'Évangile pour effrayer qui que ce soit. L'homme est déjà condamné, il est déjà perdu, il n'a pas besoin que nous venions en rajouter. Mais si nous parlons comme nous parlons, c'est pour que des écailles tombent de vos yeux et que vous compreniez combien il est important que vous songiez à mettre un terme à vos péchés afin que votre bonheur se prolonge sur la terre et que dans l'éternité, vous soyez sauvés. Ce texte nous montre à la fois les dispositions bienveillantes du Seigneur qui dit, mais si tu agis bien, si tu prends la bonne décision, tu relèveras, tout n'est pas perdu. On peut encore travailler à ce relèvement. Mais ce texte nous montre aussi le danger qui menace une âme lorsqu'elle est mal disposée. Je vous l'ai dit, notre version seconde traduit « si tu agis bien », le texte original bien traduit dit « si tu es bien disposé ». Le péché se couche à ta porte et son désir tend vers toi, mais toi tu dois dominer sur lui. Et la condition c'est que tu sois bien disposé. Quel danger qui guette une âme qui est mal disposée. Peut-être qu'il y a au milieu de nous cet après-midi un adolescent mal disposé. Mal disposé parce que c'est la période de la révolution et de la crise. Mais si tu es mal disposé, faut que tu saches que quelqu'un te guette. Tu es guetté. Le mot hébreu, robes, qui est utilisé pour fait penser à un animal qui est prêt à bondir sur sa proie. Dieu veut persuader Caïn de l'intérêt de se détourner de son péché. Et lui dit, le péché se couche à ta porte. Le péché de Caïn, c'est l'intention qu'il a de tuer Abel, mais il ne l'a pas encore tué. Notez aussi le rôle que joue l'irritation. Le rôle que joue la colère dans le refus de se laisser persuader. Fais-tu bien de t'irriter, dit le Seigneur. Oui, je fais bien. Il y en a un autre qui a dit ça. Il s'appelait Jonas. Il est plus préoccupé par l'histoire d'un ricin, la nature, voyez, mais le sort de 120 000 personnes dans la ville de Ninive le laissait indifférent. Il y a beaucoup de gens qui sont plus préoccupés par le dépérissement de leur gazon dans leur villa que par la mort éternelle de leurs voisins et qui ne prennent pas conscience du rôle et de la responsabilité dont ils ont été investis par le Seigneur lorsqu'ils ont été appelés à devenir chrétiens. Caïn a ouvert la liste de ceux qui vont fermer leur cœur à l'appel de la grâce. Après lui, il y aura Ésaü, le profane, qui pour un plat de lentilles va vendre son droit d'aînesse. Puis il y aura Saül, le premier roi, infidèle, qui déshonorera Dieu. Israël, lui aussi, tout entier, à la venue du Messie, rejettera la vérité. Abel représente le véritable croyant. Il est le type de l'homme passionné qui entretient une relation profonde avec le Seigneur. Quand on lit le texte comme cela, un peu rapidement, on a l'impression que son offrande est unique, d'une part, et deuxièmement, qu'elle relève d'un accident. Il a fait un sacrifice, point c'est tout. Mais non, verset 4, le texte précise au pluriel une offrande de ses premiers-nés. Et si vous lisez Hébreux chapitre 11, qui est un texte du Nouveau Testament qui fait référence à ce passage, eh bien vous verrez qu'il est question de ses offrandes au pluriel. Donc la vie d'Abel était une vie de réelle communion avec Dieu. Le texte nous parle d'une offrande en particulier, mais ça n'était pas la première certainement. En tout cas, ça a été la dernière, probablement. Même s'il peut y avoir un laps de temps entre le moment où Caïn a ruminé l'idée de tuer son frère et le moment où il lui a adressé la parole et il a accompli son acte de meurtre. Mais une chose est certaine, Abel, c'est un homme qui avait une réelle communion avec Dieu. Ses offrandes n'étaient pas ponctuelles, c'était régulier. Dieu avait noté qu'il y avait un vrai commerce spirituel. Et c'est là que sa conscience a été éclairée sur la vanité de la vie, le sens même de son existence. Abel, ça signifie la vapeur, la buée. Il devait se demander, pourquoi on m'a appelé comme ça? Vous imaginez porter un nom pareil? Buée, viens ici. Vous avez l'impression d'être une vitre là, avec un esprit là. Viens ici, buée, viens ici, vapeur. Mais au fond, c'est ce que nous sommes, une buée, une vapeur. Il suffit que vous rendiez le dernier souffle et plus rien. Il a dû comprendre dans cette relation avec Dieu la fragilité de l'existence. Et il a pu saisir par la foi la nature sérieuse du péché. On est en droit de se demander d'ailleurs d'où lui vient cette connaissance. Je pense très sérieusement que cette connaissance vient de ce qu'Adam et Ève lui avaient dit au sujet du premier sacrifice qui avait eu lieu dans le jardin d'Éden. Car oui, mes amis, en Éden, il n'y a pas eu qu'une désobéissance. Oui, désobéissance de la part de l'homme et de la femme. Mais il y a eu un acte de miséricorde de la part de Dieu. La Bible dit que Dieu a revêtu l'homme d'habits de peau. Alors, il n'a pas revêtu des habits de peau parce qu'il est allé à la chasse. Non, mais il y a eu un sacrifice, il y a eu une alliance. Toutes les alliances dans la Bible reposent sur un sacrifice. C'est une loi spirituelle et éternelle. Et il y a eu une alliance dont la Bible ne parle pas, mais il y a eu un sacrifice. Et le reste, la dépouille de ces animaux, a été offert comme preuve de la miséricorde divine à Adam et à Ève. Et Adam et Ève ont été recouverts, revêtus par les habits de peau de ce premier sacrifice. Ils ont parlé à Caïn et à Abel de ces faits. Ils ont expliqué comment, tout d'un coup, ils étaient dans la honte. C'est étrange parce qu'ils étaient nus bien avant, ils n'avaient pas honte de leur nudité. Ce n'était pas la nudité qui était en cause. C'était la désobéissance, le fait que maintenant, dans leur conscience, qu'il dit leurs yeux s'ouvrir, mais ils n'étaient pas aveugles. Leurs yeux s'ouvrir signifie que tout d'un coup, ils ont pris connaissance du fait. Ils ont réalisé que la désobéissance avait déclenché un phénomène de rupture. Et des angoisses les ont envahis, sentiments de solitude. Et la réalité a très vite été confirmée. Dieu les a jugés. car le salaire du péché, c'est toujours un jugement divin. Dieu est juste, mes amis. Et Caïn n'a pas voulu entendre cette histoire de ses parents. Il avait trop de travail, il était au champ et il fallait que ça rapporte. Hein. Abel, lui, était plus sensible. Il méditait sur ce premier sacrifice. Et il a réfléchi et il a fait les choses de telle manière que la Bible dit que son sacrifice a été qualifié d'excellent. Plus excellent que celui de Caïn. Lui-même, dans l'Épître aux Hébreux, a été déclaré juste. Non pas sans péché, mais justifié. Justifié par le moyen de la grâce divine. Vous vous rendez compte? Être attentif à la voix de Dieu. Ne pas s'endurcir, ne pas s'habituer à écouter la parole de Dieu, faire comme si c'était peu important. Mais on s'habitue bien à des tas de choses, mais j'écoute toujours la même chose. Et quand vous écoutez la météo, soir et matin, vous n'écoutez pas la même chose, bien sûr. Et quand vous êtes planté devant la télé pour les mêmes bêtises, à longueur d'année, c'est toujours la même chose. Et comme ça vous intéresse, vous êtes là, devant la boîte à bêtises. Alors on a le droit, nous aussi, de vous répéter constamment les mêmes choses, en espérant éveiller votre intelligence à quelque chose de dramatique et qui vous concerne. Écoutez et entendez ce que dit l'Esprit à l'Église. Le péché se couche à ta porte. Caïn vivait dans les champs, était un laboureur. Il avait déjà certainement assisté à ce genre de scène dramatique. Peut-être qu'il avait surpris en rentrant le soir de son travail. Il avait surpris le fauve accroupi là, les yeux luisants de convoitise. Peut-être avait-il même senti toute sa masse musculaire se tendre et tout d'un coup, là, en un clin d'œil, un cri, et la victime s'est affaissée. La mort d'un cerf, d'une biche, je ne sais pas. S'il y avait quelqu'un qui pouvait comprendre ce langage, le péché se couche à ta porte, rebaisse, il est là comme un fauve qui est tapi. C'était bien Caïn. Dieu lui disait, tu vois, Caïn, à cause de ta rébellion, parce que tu n'écoutes pas, parce que tu es en colère, parce que tes œuvres sont mauvaises, Tu cours le même danger. Tu es guetté, toi aussi, par un adversaire infiniment plus redoutable que ce fauve. Le péché peut t'atteindre. Il peut faire de toi sa proie. Ce qui est remarquable, c'est que, vous savez, dans ces langues sémitiques en Orient, dans le grand Orient, on a découvert des tablettes cunéiformes. Le même mot qui est dans la parole de Dieu, en assyrien, signifie se tenir en embuscade. Et il sert à désigner une espèce de démon. Ah, mes amis, vous allez me dire, oh là là, les démons. Mais oui, les démons sont des réalités. La Bible dit que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien sûr, ça vous glace un petit peu les sangs. Savoir que vous pouvez finir dans l'estomac d'un démon, c'est pas très agréable. Et c'est ce que la Bible dit, quelqu'un qui vous dévorera. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, bien que loin de ce texte, nous nous sentons quand même psychologiquement, spirituellement proches de ce qui s'est passé. Nos expériences d'hommes, nos expériences de femmes modernes confirment ce vieux récit. Nous aussi nous avons été tentés. Nous aussi nous avons cédé, que ce soit à la colère, à la sensualité, à je ne sais trop quelle pression du mal. Et puis nous nous sommes sentis comme écrasés sous le poids du péché, incapables de résister. Comme la victime de ce lion, nous avons été la proie, la victime de celui qui rôde comme un lion rugissant. Si vous lisez le texte d'où cette image est tirée, c'est dans l'épître de Pierre. Première épître de Pierre au chapitre 5. C'est là que l'apôtre nous dit que le diable est comme un lion rugissant. Vous allez voir, il y a quatre conseils. Je vais vous les résumer de façon à ce que quand vous relirez ce texte, peut-être ce soir ou demain, puissiez vous le remémorer. D'abord, il est dit, soyez soumis à ceux qui vous dirigent. Au verset 6, il est dit, revêtez-vous d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Au verset 7, il est dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Au verset 8, il est dit, soyez sobre et veillez. Et au verset 9, il est dit, résistez-lui avec une foi ferme, parce qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Reprenez ces exhortations. Réfléchissez. Combien de fois n'avez-vous pas été, combien de fois n'avons-nous pas été rebelles et insoumis? Combien de fois n'avons-nous pas résisté à l'autorité gouvernementale ou à nos pasteurs? La femme à son mari, l'adolescent à ses parents. Nous sommes concernés par cette exhortation, soyez soumis. Combien de fois n'avons-nous pas manqué d'humilité? Avons-nous été orgueilleux? Nous sommes imposés par l'orgueil. Nous n'avons pas toujours résisté non plus dans toutes les circonstances de notre vie par manque de vigilance. Autant d'occasions qui ont été des portes ouvertes, le péché se couche à ta porte. Autant de péchés, d'occasions qui ont été des portes ouvertes à la puissance du péché. C'est pour ça que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Voyez ? Donc il y a une notion très précise de responsabilité. Pourquoi ? Parce que pour Caïn, comme pour chacun de nous, c'est une question de vie ou de mort. Tu dois dominer sur lui, dit le Seigneur. L'apôtre Paul, alors je faisais allusion à ce texte, on y arrive. L'apôtre Paul a longuement écrit sur la malveillance et sur les dommages causés par le péché. Et je reprends ces cinq chapitres, ces trois chapitres, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, lisez-les aussi. Il dit ceci, c'est un résumé. Le péché est entré dans le monde par un seul homme et par le péché, la mort. 5:12. Il dit ailleurs, en vous livrant à quelqu'un pour lui obéir, vous devenez esclaves de celui à qui vous obéissez. Chapitre 6, verset 16. Et à un moment donné, il parle de son rapport avec la loi de Moïse. Il parle aussi de ses convoitises et il dit, le péché, saisissant l'occasion, se montra excessivement pécheur, montra toute sa virulence de péché et par le commandement me fit mourir. Qu'est-ce que Paul veut dire quand il parle du péché qui saisit les occasions? D'abord, j'ai compris que si moi, je ne saisis pas toutes les occasions de faire le bien, le péché lui saisit toutes les occasions de me conduire à la désobéissance. Attention. Et Paul dit, chapitre 7, verset 13, et regardez si cette phrase est étrange, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort et qu'il devienne condamnable au plus haut point. Péché qui se montre péché, qui se manifeste comme péché. J'ai pris quelques versions. La version Sommer 2000 dit ceci, afin de montrer sa nature de péché et son excessive perversité. La version Colombe, afin de se manifester en tant que péché et qu'il apparaisse démesurément péché. La version Tob, version catholique, afin qu'il fût manifesté comme péché et qu'il apparut dans toute sa virulence de péché. Ah, Paul me dit que le péché, Paul parle du péché qui, afin d'apparaître péché, c'est-à-dire afin de me révéler sa véritable nature, afin de me montrer ce qu'il est en réalité. Oui, je le disais, ce n'est pas qu'une histoire de fruits, agréable, bon, dont on prend et qu'on partage avec son conjoint. Non, non, il faut tourner la page. Il faut sortir de l'Éden. D'ailleurs, on est sorti de l'Éden. Il faut aller là, dans les plaines. Il faut aller voir un homme qui n'a rien à voir avec ce fruit. Rien à voir avec cet arbre mystérieux de la connaissance du bien et du mal. C'est un rapport d'homme à homme. C'est une colère qui finit mal. Et un homme qui donne la mort à son frère. Prendre prétexte d'un sacrifice. Pour faire d'un homme l'assassin de son frère. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent prétexte de la foi. Hein. La foi, on a un Dieu qui s'appellerait Allah, le faux prophète Mahomet, pour tuer. Remarquez, on n'a rien à leur reprocher. Pendant des siècles, de soi-disant chrétiens ont pris aussi prétexte de délivrer des terres saintes, des pierres, du sable, ont tué des multitudes de gens. On n'est plus dans une histoire que l'on peut appeler un mythe. On est dans la réalité. Oui, le péché se montre tel qu'il est, extrêmement coupable, source de souffrance, générateur de haine, et non seulement de haine entre les individus, mais entre les peuples, entre les générations. C'est le péché qui a conduit le soi-disant pays chrétien à s'entretuer dans la Seconde Guerre mondiale. À la conférence de Wannsee, qui a décidé la solution finale, il y avait 13 universitaires allemands. 13 universitaires, ce n'étaient pas des brutes, des gens, des universitaires. Tous diplômés, tous qualifiés. Et froidement, ils ont planifié la liquidation de 6 millions d'êtres humains, juifs ou pas, peu importe, d'êtres humains. C'est le péché. communisme, 80 millions de morts. Si on ajoute non seulement la Russie, mais le Cambodge, le Vietnam, le tentateur qui avait réussi à pénétrer le jardin d'Éden, a aussi réussi à pénétrer le cœur de l'homme. Et ni sa religion, ni ses rites, ni ses églises, ni ses mosquées, ni ses temples n'ont jamais arrêté quoi que ce soit. Le mal est une réalité. Le diable est toujours en embuscade. Il est là comme un lion cherchant qui il dévorera. Et il dévore l'humanité. Et aujourd'hui, c'est le terrorisme qui tend les nerfs de tous. C'est la peur de la maladie. C'est la peur de l'accident. On est dans un univers qui n'est pas rassurant. C'était Franz Kafka qui disait qu'il y a quelque chose de cassé. Qu'il y a quelque chose de cassé. Et la Bible nous montre ce qui est cassé. C'est la relation avec Dieu. Ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que si le péché se couche là à la porte, en embuscade, si nous sommes guettés, s'il y a quelqu'un qui attend le moment décisif de s'emparer de nous, le livre de l'Apocalypse nous parle de Jésus. Chapitre 3 de ce merveilleux livre, au verset 20, le Seigneur dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Donc vous avez d'une part le péché qui est à la porte, et puis vous avez Jésus qui est à la porte. Vous savez, l'hébreu est une langue très très riche, c'est une langue consonantique, triconsonantique. Il y a toujours trois consonnes, pas de voyelles. Ce qui fait qu'avec les mêmes consonnes, le même mot, mais il est imprononçable, en fonction du contexte, vous pouvez mettre les voyelles qui vous permettront de donner un sens à votre passage. Le même mot hébreu qui désigne le péché, permet de désigner le sacrifice pour le péché. C'est-à-dire que quand Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, il lui dit aussi en même temps, le sacrifice pour le péché est à ta porte. Dieu dit, il y a le mal qui est à ta porte, mais il y a aussi la solution au mal qui est à ta porte. Il y a le problème qui est là, mais il y a aussi la réponse au problème qui est là. La délivrance est à ta portée. Il suffit, Caïn, que tu fasses le bon choix. Il suffit que tu sois bien disposé. Parce que si tu es bien disposé, rien n'est encore perdu. Tu relèveras la tête. Le sacrifice pour le péché n'est pas loin. J'aime cette richesse d'une langue qu'on dit être morte. Mais là, l'hébreu est loin d'être une langue morte. C'est nous qui sommes morts. Dans l'Apocalypse, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte. Parce que vous savez, le sacrifice pour le péché, c'est lui. C'est Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai. Et qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas le dévorer, mais je souperai avec lui. Ce n'est plus la même relation. À qui allons-nous ouvrir la porte, mes amis? Au péché ou à celui qui pardonne du péché? Le choix nous appartient. Mais faites attention, faites attention. La liberté que Dieu vous donne est un des dons les plus dangereux qui soit. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Je vous l'ai dit, en vous livrant à quelqu'un pour lui obéir, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez. Dans le texte de la Genèse chapitre 4 avec l'histoire de Caïn, nous voyons que la même voix qui avertit Caïn avant son crime va se faire entendre après son crime, et cette fois-ci sous la forme d'un jugement. On n'a pas lu le texte, mais vous pourriez le lire. Dieu dit à Caïn, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Et la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Tu l'as enterré rapidement, tu as menti à tes parents, une fauve l'a déchiré. D'autres reprendront peut-être cet argument après. Mais Dieu savait. Dieu savait. Et Dieu dit, maintenant la terre, elle va être maudite à cause de toi. Allez, tu es désormais éloigné de ma présence. La malédiction avec le premier homme, à la première génération d'êtres humains, la première génération d'êtres humains nés, parce qu'Adam, il a été créé. Il n'est pas né comme nous. Mais le premier homme qui naît, c'est un assassin. On est tous issus d'une lignée d'assassins. On a tous des gènes un peu de Caïn. D'ailleurs, je crois que si vous n'avez pas eu l'occasion de tuer quelqu'un, c'est parce que Dieu vous a gardé. Et combien de fois vous avez eu envie de tuer quelqu'un? Hein? T'en connais, si je l'attrape celui-là. Mais Jésus a dit, mais le fait d'avoir de la haine contre quelqu'un, c'est déjà être un meurtrier. La voix de Dieu qui s'est faite entendre pour avertir, car elle était bienveillante, il dit, si tu relèves ta tête, si tu choisis bien, si tu es bien disposé, tu vas relever ta tête, tu vas écouter, tu vas comprendre qu'on ne s'approche pas de Dieu comme ça. On n'achète pas les grâces de Dieu. On n'essaie pas d'impressionner Dieu. Viens avec le sacrifice. Viens selon le modèle. Approche-toi par la foi. Cette même voix maintenant, elle se fait entendre sous la forme d'un jugement sans appel. Il y aura, mes amis, un jugement au péché. C'est ce qui fait l'extrême gravité du péché. Parce que non seulement il nous rend malheureux, mais il appelle un châtiment. Voilà pourquoi nous aimerions que vous puissiez entendre la voix du Sauveur. Au travers de ces réunions, sous une forme ou sous une autre, eh bien, nous vous faisons entendre la voix de Jésus qui disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, tous qui êtes chargés, tous qui êtes accablés, venez à moi, je vous donnerai du repos et je vous soulagerai. La voix du sang d'Abel réclame justice, elle réclame vengeance, mais la voix de Jésus, la Bible dit qu'elle parle mieux, parce qu'elle demandera vengeance, elle demandera justice. Nous rendrons compte, si nous n'acceptons pas Jésus, de la mort de Christ sur la croix. Mais elle parle mieux, cette voix, parce que si nous acceptons le sacrifice que Jésus a consenti, la Bible dit qu'il nous fait miséricorde. Dieu fait miséricorde à celui qui se détourne de ses fautes. Si vous vous détournez de vos péchés, si vous y mettez un terme, Dieu peut les pardonner. Dieu veut les pardonner. Et par le sang de Jésus, eh bien, vous pouvez être purifié. On l'a chanté tout à l'heure. Ma prière, c'est que vous vous repentiez maintenant. Que vous reveniez à celui dont vous vous êtes profondément détourné. Sans Jésus, vous devez le savoir, vous êtes perdu. Ici-bas, comme Caïn, vous constituez une proie idéale pour Satan. Votre nature, vos émotions, votre orgueil, autant de ficelles par lesquelles le diable vous manipule comme une marionnette. Et un jour, il vous détruira. Mais à l'heure de l'éternité, vous serez rejeté. Rejeté loin de la face du Seigneur, de la force de sa gloire. Et alors, vous connaîtrez ce que c'est que la séparation. Cette séparation que vous avez entretenue en vivant dans le péché. Cette rupture que vous avez maintenue. Et Dieu dira, ben voilà, maintenant, tu l'as, cette rupture. Pour l'éternité. Jésus dit dans l'Apocalypse, je termine là, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Ce qui est remarquable, c'est que Jésus se tient debout. Ce verbe, le fait qu'il soit debout, il parle de la résurrection. Jésus qui était mort et qui est ressuscité. Je frappe, c'est un présent qui exprime une action qui dure encore. Jésus se tient là sans se lasser. Il frappe sans se décourager. Il est là. Cet après-midi, il est là pour nous. Vous allez dire, mais on est quelques pèlerins. Le Seigneur est là. Oui, le Seigneur est là pour nous. La Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent. Il est ressuscité. Il est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort sur une croix. C'est un Seigneur ressuscité. Il est à la porte, à la proximité, pas seulement dans son ciel de gloire, sur son trône, mais à la porte. Il n'a pas attendu que nous venions à lui, que nous soyons bien disposés. Il a dit, voilà, si tu veux, moi je suis disposé à te sauver. J'ai toujours été étonné quand je réfléchis à mon expérience de salut, à la facilité avec laquelle je suis rentré dans le royaume de Dieu. T'es fermé, bêtement fermé, comme tous les adolescents, avec leur crise d'acné et tout ça. Puis un jour, j'ai dit, mais si c'est vrai, le Seigneur est rentré, si c'est vrai. Et Dieu a changé ma vie. Il est bien disposé, c'est nous qui sommes mal disposés. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Le temps encore de ce verbe indique qu'il frappe constamment. On peut se poser la question, comment est-ce que Dieu frappe? Est-ce que je vais rentrer chez moi et entendre cette nuit, boum, boum, boum? Non, ça c'est les poutres de la maison qui craquent, c'est rien à voir. Mais comment est-ce qu'il frappe? Je crois que d'abord il frappe par les mouvements du Saint-Esprit sur notre conscience. quand des fois notre conscience nous parle, sans que nous aurions pu mieux faire, que nous n'aurions pas dû faire ça, que nous réfléchissons aux conséquences, que nous regrettons. Nous avons été entraînés comme Caïn, et la situation a empiré, quelque chose s'est jeté sur nous, on a été précipités dans le mal. On ne voulait pas, et pourtant on l'a fait. Paul disait à propos de cette lutte, cette impuissance interne misérable que je suis, qui me délivrera ? On est bien tous les mêmes. Et puis il frappe par les circonstances de l'existence. Ça ne vous interpelle pas, les circonstances de l'existence ? Vous deviez prendre la voiture avec un tel. À la dernière minute, il y a eu un empêchement, vous n'êtes pas parti. Et la personne qui a pris votre place est morte dans cet accident. Ça peut être une disparition. Un copain de promo, vous vous étiez juré de vous revoir, et puis tout d'un coup, là, sans préavis, le mal s'est déclaré, et en un mois, il était emporté. Qu'est-ce qui vous affecte? Oh, vous aviez ces mal nature sensibles, mais il y a des gens, vous savez, ils ne sont pas du tout sensibles. Parce que s'ils étaient vraiment sensibles, ils ouvriraient leur cœur à Jésus. Ils sont insensibles, au contraire. On leur parle de l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour les péchés du monde, mais ils restent fermés, raides. La Bible dit que quand Jésus est mort, la terre a tremblé. Les sépulcres se sont ouverts, des rochers se sont fendus. La nature elle-même est plus sensible que le cœur de l'homme. Reconnaissait que son créateur était en train de mourir. Le soleil s'est mis en deuil en plein midi. Il a fait nuit. Et vous croyez que les hommes sont comme ça? Non. Je signe n'importe comment, ils ne savent pas dans quel sens. Je la crois. Ils s'en fichent réellement. Ils la portent au cou, un bijou. Ça n'a aucune signification pour eux. Ils ne comprennent pas que leur style de vie a coûté celle du Sauveur, celle du Seigneur. Dieu nous parle, nous sommes insensibles, c'est ce que la Bible dit. Non, l'émotion qui vient quand, par exemple, j'apprends que j'aurais dû mourir dans cet accident et que la dernière minute, j'ai été épargné, ou bien ce deuil subi, cette émotion, c'est aussi le Seigneur qui frappe. Et il nous dit, de l'autre côté de la porte, ta vie, elle est dangereuse. L'histoire de Caïn, je ne sais pas si vous avez bien fait attention au texte que nous avons lu, mais l'histoire de Caïn nous montre que une vie sans Dieu est une vie dangereuse, sans protection, sans assurance. Caïn dit à Dieu, mais celui qui me trouvera, il me tuera. Tu me chasses aujourd'hui, loin de ta face. Je serai errant, vagabond. Et Dieu dit, je vais mettre sur toi un signe pour que celui qui te rencontre, il ne te tue pas. Tu porteras ton châtiment jusqu'au bout. La vie sans Dieu, c'est une vie dangereuse, sans assurance, sans protection. Aux Antilles, vous pouvez, hors saison, avoir un voyage moins cher, des conditions intéressantes sur le plan financier, sauf si vous avez un typhon, un ouragan qui balaye tout, qui vous emporte. Il y a des gens qui ont laissé leur vie. Et ça doit nous parler. Il y a des gens qui ferment leurs portes, qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Félix, un gouverneur a entendu frapper à la porte. La Bible dit qu'il a même tremblé. Quand Paul lui parlait, il tremblait. Arrête de me parler du jugement, arrête de me parler de la vie à venir. Non. Parlez-moi de la guérison, parlez-moi des miracles, de l'abondance, de la prospérité. Ça oui. Ne parlez pas du péché, pasteur. Je ne dors pas la nuit. Tant mieux. Agrippa a été sur le point d'ouvrir la porte. Quand le Seigneur a frappé à sa porte, par le témoignage de Paul, il dit, mais tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Mais il ne l'a pas. Il n'a pas ouvert. Pilate, lui, a essayé de se tranquilliser. Il s'est lavé les mains. Bon, on verra. Mais il a fini destitué, rejeté dans la principauté de Vienne. Mes amis, vous pouvez ce soir faire un bon choix. Vous pouvez ce soir comprendre que le péché n'est pas quelque chose sans importance, sans gravité. Vous pouvez comprendre que ce soir, le Seigneur Jésus vous parle. Si vous comprenez cela, alors vous pouvez mettre votre vie en règle. Qui c'est qui a parlé à Caïn? Ce n'est pas n'importe qui. L'Éternel a parlé. l'Éternel a parlé aux mortels. Le Seigneur frappe à la porte. Ce n'est pas un ange, mais c'est le Créateur, c'est le Rédempteur. Il n'y a rien de plus important que cette réunion d'évangélisation. Vous placez devant sa conscience et devant la réalité du péché. Nous pouvons dire aujourd'hui, je choisis de relever la tête. Je crois dans le pardon de Jésus. J'abandonne mes fautes au pied de la croix. Je demande au Seigneur Jésus maintenant de me délivrer du péché. Alors ma vie prend un sens complètement nouveau. C'est ce que la Bible appelle devenir une nouvelle créature. C'est à vous qu'il appartient de décider maintenant. Je vous propose de prier. Demandez à Dieu qu'il vous bénisse.